Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris. Vous écoutez SBS French, votre programme en français de la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure d'émission ensemble. Et comme à chaque émission, nous commençons par le journal. Les titres de l'actualité de ce jeudi 21 juillet. L'Australie, sous la menace d'une crise sanitaire avec la propagation de la maladie de la fièvre aphteuse chez nos voisins indonésiens, les appels à fermer les frontières se multiplient. La Russie ne se contentera pas du Donbass et compte pousser son offensive contre d'autres territoires en Ukraine, menace proférée par Moscou. Le Premier ministre italien proche de la sortie, Mario Draghi devrait poser une nouvelle fois sa démission après la défection de trois partis au sein de sa coalition. Lui aussi s'apprête à quitter son poste de Premier ministre. Boris Johnson passera la main soit à Rishi Sunak, soit à Liz Truss. Les deux conservateurs ont été désignés comme finalistes. Ils seront ensuite départagés par les adhérents du parti. Et enfin, du sport et la victoire de Tadej Pogacar dans les Pyrénées lors de la 17e étape du Tour de France. Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. Tous les détails dans le journal des sports. On ouvre ce journal avec la menace sanitaire qui pèse sur l'Australie, celle d'une propagation de la maladie de la fièvre aphteuse, plus communément appelée foot and mouth disease. Le virus s'est très vite propagé en Indonésie ces derniers mois et s'il est peu dangereux pour la santé humaine, eh bien il peut avoir des conséquences dramatiques pour l'industrie agricole, se transmettant rapidement parmi les animaux. L'Australie est indemne de fièvre aphteuse depuis 150 ans et l'arrivée de la maladie sur le territoire pourrait provoquer une perte économique de 80 milliards de dollars. L'Australie étant un très gros exportateur de viande bovine. Conséquence, les appels à fermer les frontières avec l'Indonésie se multiplient, comme celui de la porte-parole de l'opposition pour les affaires intérieures, Karen Andrews, invitée chez nos confrères de Sky News.
This is not a softly, softly, gently, gently approach. If it has to be a temporary measure, that would be great. But let's not run the risk of foot and mouth disease coming into Australia.
Une réponse drastique à laquelle se refuse le gouvernement, préférant plutôt mettre en place des contrôles aux frontières, comme le justifie Murray Watt, le ministre de l'Agriculture.
What we're asking people to do is if they've been in Bali, especially if they've been near livestock or on a farm, and for that matter, there's a number of other countries around the world that have got foot and mouth disease as well. If you're coming back in from any of those countries, you've been near a farm, you've been near livestock, clean your shoes very thoroughly, clean your clothing very thoroughly, and frankly, if you don't need to bring your shoes back, then leave them behind.
Parmi les contrôles accrus, l'installation de tapis à la sortie des avions en provenance d'Indonésie. Les voyageurs sortant de l'avion marcheront directement sur ces tapis recouverts d'acide citrique afin, je cite le ministre, d'accroître la protection. Le Parlement australien doit siéger pour la première fois mardi prochain, le 26 juillet. Anthony Albanese a détaillé la feuille de route et les priorités du nouveau gouvernement élu le mois dernier. Au programme, des mesures diverses et variées comme introduire un congé payé de 10 jours en cas de violence domestique, modifier la loi relative aux soins aux personnes âgées ou encore inscrire dans la loi l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine se prépare à de nouvelles offensives russes sur son territoire. L'armée ne se contentera pas du Donbass si les Occidentaux fournissaient des armes à longue portée à l'Ukraine. Cette menace a été formulée en substance par Sergueï Lavrov. Les régions de Kherson et de Zaporizhia sont notamment convoitées. On écoute le chef de la diplomatie russe lors d'une interview à l'agence de presse RIA Novosti et à la chaîne Russia Today.
Dans la mesure où l'Occident, dans sa rage impuissante, je dirais, et dans sa volonté d'aggraver la situation, fournit à tout va des armes de longue portée à l'Ukraine, comme les HIMARS, nos objectifs territoriaux vont être encore revus à la hausse. Car nous ne pouvons permettre que dans la partie d'Ukraine contrôlée par Volodymyr Zelensky ou son remplaçant se trouvent des armes qui peuvent menacer directement notre territoire ou celui des républiques ayant déclaré leur indépendance ou voulant choisir seul leur avenir. Maintenant, la géographie est différente. Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijia et une série d'autres territoires. Et ce processus continue de façon constante.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et Kiev, de son côté, demandent davantage d'armes pour répondre aux attaques de Moscou, alors que l'Union européenne a voté hier un nouveau train de sanctions, cette fois contre les exportations d'or russe. C'est dans ce contexte que la Lituanie a ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ses voisins baltes l'avaient déjà fait un petit peu plus tôt. Cette décision est historique pour ces pays limitrophes de la Russie qui voient leur sécurité renforcée. À Vilnius, la correspondance de Marielle Vituro pour Radio France Internationale.
La séance au Parlement a été rondement menée, moins de 30 minutes pour approuver à la quasi-unanimité l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. De quoi clore la session de printemps du Parlement sur une note d'espoir alors que la guerre en Ukraine continue toujours d'inquiéter dans la région. Gabrielus Landsbergis, député et ministre des Affaires étrangères.
Notre région se renforce et je crois que nous tenons là l'une des plus grandes victoires contre la Russie de Poutine.
La Suède et la Finlande ont des armées fortes et développées correspondant totalement aux standards de l'OTAN et leurs marines vont pouvoir protéger la mer Baltique, désormais une mer intérieure de l'OTAN, encore bordée par la région russe de Kaliningrad, hautement militarisée. Le maître mot est dorénavant l'entraide, Artis Pabriks, le ministre letton de la Défense.
Comme nous sommes un petit pays, grâce à leur participation dans l'OTAN, notre défense a une nouvelle dimension stratégique. Nous allons pouvoir développer notre coopération.
La Russie a elle-même changé la donne, relève-t-on ici à Vilnius. La Lituanie n'attend désormais plus qu'une chose, accueillir elle-même ses deux nouveaux membres au sommet de l'OTAN qui se déroulera l'année prochaine à Vilnius.
Au Royaume-Uni, on connaît le nom des deux finalistes pour succéder à Boris Johnson au 10 Downing Street. Les députés du Parti conservateur ont voté pour un duel entre Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, et Liz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères. Un duel entre deux personnages connus pour tenir une ligne politique assez dure. Rishi Sunak est arrivé en tête, mais ce ne sont pas les députés qui vont les départager. Ce sont les adhérents du parti, Nicolas Feldman, RFI.
D'un côté, Rishi Sunak, 42 ans, ancien ministre des Finances, ce fils d'immigré indien, homme politique charismatique, pro-Brexit, tenant d'une ligne libérale dure, s'est imposé comme l'étoile montante des conservateurs ces derniers mois, au point d'arriver en tête à chacun des 5 tours de vote des députés Tories. Face à lui, Rishi Sunak affrontera Liz Truss, 46 ans, celle que les Britanniques surnomment la nouvelle dame de fer, en référence d'abord à son admiration pour Margaret Thatcher, mais aussi pour son franc-parler. C'est à elle que le Royaume-Uni doit notamment la signature des accords commerciaux post-Brexit. C'est elle aussi, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui incarne la ligne dure de son pays face à l'agression de l'Ukraine. Dès lundi prochain, les deux finalistes vont pouvoir se jauger. Premier débat face à face retransmis en direct à la télévision. Et c'est désormais une autre campagne qui s'ouvre, puisque contrairement au tour précédent, ce ne sera pas aux députés du camp conservateur de départager les deux finalistes, mais bien aux adhérents du parti. Les 200 000 militants conservateurs se prononceront dans un vote par correspondance. Le nom du successeur de Boris Johnson sera connu le 5 septembre.
Et la démission de Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, c'est justement le thème de la première partie de l'épisode 101 d'Europa Voice. Quel bilan tiré du mandat interrompu de Bojo? Quel héritage? J'ai posé ces questions à Nathanaël Bloch, on l'entendra un petit peu plus tard dans l'émission. Autre pays, autre gouvernement, on le disait en titre, celui de Mario Draghi en Italie qui est proche de l'implosion. Le Premier ministre demandait la confiance du Sénat, confiance qu'il a obtenue, mais 3 partis de sa coalition ont fait défection en ne participant pas au vote. L'ex numéro 1 de la Banque Centrale Européenne avait été appelé à la rescousse par son pays pour résoudre une crise politique. Il n'a pas réussi à former un gouvernement d'union nationale. Conséquence, il avait déjà présenté sa démission la semaine dernière au président, démission qui avait été refusée. Il pourrait pourrait donc, en toute vraisemblance, aujourd'hui, de nouveau jeter l'éponge. L'analyse de Linda De Matteo, elle est chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'Italie.
C'est en fait vu d'un très mauvais œil par la plupart des Italiens, des partenaires sociaux, des maires qui se sont exprimés en faveur du gouvernement de Mario Draghi. Donc c'est vraiment, on a le sentiment en fait que le pays soutenait ce Premier ministre dans une situation qui est quand même grave pour le pays, mais plus largement grave en Europe à cause de la guerre, des soucis économiques que cela crée en Italie, la pénurie de gaz, etc., l'inflation, enfin des problèmes qu'on connaît également en France, mais qui sont encore plus accentués en Italie. Et donc dans ce contexte, les Italiens étaient désireux de voir se poursuivre cette expérience avec Mario Draghi, qui en fait, ils savent très bien qu'à l'étranger aussi, il a une image positive et qu'il donne confiance à leurs partenaires européens. Donc je pense que c'était perçu de cette manière-là par beaucoup, beaucoup d'Italiens.
Et enfin, pour clore cette page internationale, sachez que le Sri Lanka s'est doté d'un nouveau président jusqu'en 2024. Il n'est pas inconnu, hein, puisque c'est l'ancien Premier ministre qui était, depuis, président par intérim, après la fuite de l'ex-président Gotabaya Rajapaksa. L'élection de Ranil Wickremesinghe, 73 ans, a provoqué une nouvelle vague de contestations dans ce pays déjà embourbé dans une crise économique historique. Mais le nouveau président l'assure, il souhaite rompre avec la politique de son prédécesseur. On l'écoute.
For those who seek to destroy, to threaten democracy, they must then be dealt with the law, by the law. For the others, I would like to bring everyone together so that a national consensus is formed as to the way forward.
Un point sur la météo de ce jeudi après-midi, 19 degrés à Perth, 17 à Adélaïde, 15 à Melbourne, 12 à Hobart, 13 à Canberra, 17 à Sydney, 19 à Brisbane, 27 à Cairns et enfin du grand soleil et 31 degrés à Darwin. Le rappel des titres, l'Australie sous la menace d'une crise sanitaire avec la propagation de la maladie de la fièvre aphteuse chez nos voisins indonésiens. La Russie ne se contentera pas du Donbass et compte pousser son offensive contre d'autres territoires en Ukraine. Et le Premier ministre italien proche de la sortie, Mario Draghi devrait déposer une nouvelle fois sa démission après la défection de trois partis au sein de sa coalition.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir écouté. Restez sur SBS French, il reste encore 48 minutes à passer ensemble. Tout de suite, c'est le journal des sports.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la 17e étape remportée hier par Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard est arrivé deuxième et garde le maillot jaune. Thomas de Saint-Léger et Richard Rifono pour RFI.
À le voir de longues minutes allongé au sol, on comprend à quel point Tadej Pogacar voulait le remporter ce sprint au ralenti et en zigzag sur une pente aussi verticale que la trajectoire de sa carrière. Ce nouveau duel roue dans roue avec Jonas Vingegaard, le Danois, battu de peu dans le round du jour, mais toujours bien devant au point. 2 minutes 18 d'avance, c'est beaucoup, mais n'allez pas lui dire que le tour est joué.
Je ne veux pas y penser, je prends les étapes les unes après les autres et on fera le compte à Paris. Demain ça sera dur, mais il faudra aussi être bon vendredi et samedi sur le contre-la-montre. Trois jours difficiles nous attendent, donc il faudra bien se reposer et bien dormir.
Et pour bien dormir, bon courage. Même lui, le placide Danois, doit avoir le sommeil agité par des visions d'un Pogacar toujours prêt à bondir, même si dans le camp du Slovène, le discours est de moins en moins optimiste. Le manager Mauro Gianetti.
Ils sont à un niveau plutôt pareil, quoi. Il faut courir pour ce qu'on peut faire, et puis voir les gens, voir la situation de course, pas faire des choses qui inutile, quoi. Donc, s'il y aura la possibilité, il va essayer, mais bon, il faut être, comme on dit, réaliste et faire les choses s'il vaut la peine.
Et comme un maillot jaune en vaut la peine, on devrait voir un Pogacar offensif encore demain dans l'étape reine des Pyrénées.
Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France, l'homme qui a tracé l'épreuve, parle de ses étapes des montagnes. Il est sur RFI.
On a fait aussi très attention, notamment dans les étapes de montagne, dans les Pyrénées, à faire en sorte que les vallées soient les moins longues possibles. Et l'enchaînement des cols dans les Pyrénées va être extrêmement rapide et ce sera aussi propice à l'attaque. Donc oui, on ne peut peut-être pas empêcher certains coureurs de penser à attaquer au dernier moment, mais celui qui va vouloir attaquer de loin aura le terrain pour le faire parce que les vallées sont courtes.
Revenons sur la 16e étape remportée l'autre jour par le Canadien Hugo Hull. Son premier succès sur un grand tour, 34 ans après Steve Bauer, un autre Canadien, Thomas de Saint-Léger et Alexis Bédu pour RFI.
Seul dans la dernière ligne droite vers Foix, la bouche déformée par l'effort et l'émotion, Hugo Hull a pris le temps de savourer le goût de la victoire et de pointer le doigt au ciel. Hommage à son frère Pierrick, tué il y a 10 ans par un chauffareil.
C'est une des raisons, ouais. Pour lesquels je me lève à chaque matin, que je me pousse mes limites, que je fais beaucoup de sacrifices. Je suis sûr qu'il est bien fier de moi. J'écoutais le Tour de France avec mon frère quand j'étais tout petit. On regardait des coureurs attaquer comme ça. Puis on trouvait ça fou. Aujourd'hui, c'était moi qui étais devant. Donc, difficile à le croire, mais bon, je vais le faire.
Il l'a fait de belle manière, en semant le reste de l'échappée dans les pentes ardues du mur de Péguerre. Son premier grand succès, le deuxième seulement pour un Canadien sur le Tour, 34 ans après Steve Bauer. Une fierté partagée avec son coéquipier et compatriote, Michael Woods, lui aussi présent dans l'échappée.
Quelle belle histoire, certainement. C'est une journée historique pour nous. C'est un moment peut-être fier pour les Canadiens. Moi, je suis très fier de Hugo, je suis fier de moi-même. Et on est dans un moment... Un des meilleurs moments dans l'histoire de cyclisme en Canada.
Un des moments les plus émouvants aussi de ce Tour de France, au pied d'une montagne qui nous en promet d'autres. Bienvenue dans les Pyrénées.
Un mot d'escrime aux Mondiaux de Caire, Enzo Lefort, le Français, à nouveau champion du monde du fleuret, troisième titre de sa carrière. On passe au foot, l'Euro féminin avec les quarts de finale qui ont commencé hier avec la victoire de l'Angleterre contre l'Espagne, 2-1 après prolongation. Ce jeudi, l'Allemagne jouera contre l'Autriche. Demain, vendredi, la Suède contre la Belgique. Les Bleus, les Françaises, joueront contre les Néerlandaises en quart de finale samedi. Mayol de Charon, RFI.
Un match pour lequel la sélectionneur Corinne Diacre est enfin prête.
Je pense qu'on a vu une belle équipe de France qui s'est un peu plus lâchée en deuxième mi-temps. Je trouvais qu'on avait un visage un peu meilleur, surtout un petit peu plus de justesse technique en deuxième période. On avait souhaité concerner tout le monde et donner du temps de jeu à un maximum de joueuses. Très sincèrement, les filles ont répondu présentes, elles ont fait les efforts. Tout le monde a marqué des points, les filles ont fait les efforts ce soir. C'était difficile, la première période il faisait vraiment très chaud. On sait ce que l'on veut faire en quart de finale.
On passe à la CAN féminine au Maroc avec la finale entre le Maroc et l'Afrique du Sud ce samedi. En demi-finale, le Maroc a éliminé le Nigeria 5-4 au tir but et l'Afrique du Sud a sorti la Zambie 1-0. Sofiane Amazian et Hugo Moissonnier pour RFI.
Ce sera Afrique du Sud-Maroc. Les Marocaines ont atteint pour la première fois la finale du tournoi en éliminant le grandissime favori, le Nigeria, tenant du titre et vainqueur de 11 éditions sur 13 jusqu'ici. Les Lions de l'Atlas ont marqué l'histoire au terme d'un match épique, un but partout, puis 5 tirs au but à 4. Hugo Moissonnier.
La libération, plus de 50 000 personnes qui explosent de joie, dont cette supportrice, son fils de 2 ans, dans les bras.
C'est exceptionnel, tous ces gens qui nous poussent, qui sont fiers.
Il n'est plus un enfant, sa joie est un peu moins expressive, mais Reynald Pedro, c'est bien un sélectionneur comblé.
Bien sûr que ça donne encore plus de force. Après, c'est un match qui est difficile. Même si le scénario nous est favorable avec deux expulsions.
Deux expulsions, dont celle de la star Rachidat Ajibadeh, visée par les lasers du public, peut-être aussi par le mauvais œil, les Super Falcons du Nigeria résistent pourtant de manière héroïque jusqu'au tir au but.
On suffit d'en marquer un petit et c'est terminé en fait. Tu te précipites un peu, tu fais pas les bons choix. Voilà. Après les tirs au but, devant 50 000... Voilà, faut avoir les nerfs solides. J'espère que la finale, on la gagnera avant.
Car oui, après son exploit, le Maroc n'a plus qu'une idée en tête.
J'ai même pas les mots pour décrire notre état d'esprit.
La défenseuse Elshad Nesrine.
On a écrit que quelques phrases. Maintenant, c'est la canne au bout, Inch'Allah.
Rendez-vous samedi contre l'Afrique du Sud.
Et je rappelle que les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour cette Coupe du Monde de 2023. Quelques nouvelles du Mercato avec Sarah Loubacouche pour RFI, l'OM qui a présenté 3 nouveaux recrues mardi dernier.
Ils s'appellent Samuel Gigot, Isaac Touré et Chancel Mamba, l'international congolais. Trois joueurs, trois défenseurs qui viennent grossir les rangs marseillais. Plusieurs autres joueurs sont ciblés, certains sont même sur le point d'arriver. Pablo Longoria, le président du club phocéen, en a profité pour faire un point sur les dossiers chauds du mercato olympien.
On va rechercher un joueur pour les milieux de terrain. Nous sommes en train de rechercher un joueur pour jouer à gauche. Il y a des conversations avec beaucoup de joueurs. On a un principe d'accord avec Lens pour Jonathan Klaus. Il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco, qui était aux États-Unis avec Celta de Vigo, il est en train de voyager aussi. Pour ça qu'on a un principe d'accord aussi avec Celta de Vigo pour sa incorporation en prêt. Il faut être patient, il faut savoir choisir les opportunités. On a l'obligation d'améliorer l'effectif. On a l'obligation comme club d'être compétitif. Il faut travailler pour fournir un effectif avec 22-23 joueurs à la fin du mercato.
Et l'OM ne s'arrête pas là. Hein. Les dirigeants viennent d'annoncer l'arrivée d'un autre défenseur central. C'est le jeune international suisse, le U19, Rogerio Niakossi. Autre information transfert du jour, et pas des moindres, en Allemagne, le Bayern Munich vient d'officialiser l'achat de Matthijs de Ligt après 3 ans passés à la Juventus. Le Néerlandais quitte donc l'Italie et sa Serie A pour découvrir les joies de la Bundesliga.
L'Australien et milieu de terrain Aaron Moy a signé avec les champions du Celtic, les champions écossais du Celtic FC. Cette décision réunit Moy avec l'entraîneur du Celtic, Ange Postecoglou. Moy était un joueur clé pour Postecoglou lorsque ce dernier était entraîneur des Socceroos entre 2013 et 2017. Le joueur de 31 ans n'a pas joué au foot en club depuis son départ du port de Shanghai, le club chinois, plus tôt cette année, en partie à cause des restrictions liées au Covid-19 en Chine qui ont perturbé la ligue de ce pays. Moy a déclaré au site du Celtic FC qu'il souhaitait non seulement jouer à nouveau sous Postecoglou, mais aussi travailler avec le nouveau lieutenant de Postecoglou, la légende des Socceroos, Harry Kewell.
I know what he, the standards he wants and yeah, I'm looking forward to working with him again. Harry was an amazing player in his day, and I'm sure he's very excited to be here as well, with working under Ange. I just can't wait to get started.
Le nageur australien Isaac Cooper, renvoyé d'un camp d'entraînement des Jeux du Commonwealth de Birmingham pour des raisons disciplinaires, notamment l'utilisation abusive de médicaments. Il allait prendre part aux 50 mètres et 100 mètres d'eau où il avait de fortes chances de remporter l'or, ainsi qu'aux 50 mètres papillon et aux 50 mètres nage libre. Cooper a établi un record national aux 50 mètres d'eau lors des essais de sélection en mai dernier. Et il est le nageur le mieux classé du Commonwealth aux 50 mètres d'eau et aux 100 mètres d'eau. Un mot sur les mondiaux d'athlétisme qui se déroulent à Oregon, aux États-Unis. Eleanor Patterson est devenue la première Australienne championne du monde du saut en hauteur, ayant franchi 2,02 mètres. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Poser des mots chantés par Motel Club. Tout de suite, comme chaque jeudi, c'est la chronique économie. On en parlait dans le journal, hein, les inquiétudes grandissantes en Australie face à la maladie de la fièvre aphteuse qui sévit en Indonésie. Nicolas Perpich et Jean-Noël Ducasse reviennent sur ce risque sanitaire qui menace l'île continent.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et les fermiers autour du pays sont très inquiets en ce moment à cause de la possibilité que la fièvre aphteuse pourrait arriver en Australie.
Oui, voilà, ou foot and mouth disease, comme on dit en anglais. C'est en fait cette fièvre aphteuse, c'est une maladie animale virale. Heureusement, c'est pas transmissible à l'homme, mais ça affecte des animaux comme des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres. Donc c'est une maladie, très contagieuse, et ça peut avoir des répercussions socio-économiques vraiment très très considérables. Alors ça a été trouvé en Indonésie et sur l'île touristique de Bali. Donc les gens s'inquiètent qu'un touriste pourrait ramener cette maladie ici en Australie, sur eux, sur leurs habits, ou même s'ils ramènent de la nourriture. Donc, il y a des fermiers au Victoria, en Australie-Occidentale, un peu partout, qui disent qu'ils ont assez peur en ce moment. C'est une haute alerte pour cette maladie. Ils disent que ça pourrait être vraiment catastrophique parce que s'il y avait cette maladie ici, ça serait la fin de l'exportation de bétail, de moutons, de tout ça, presque immédiatement. Donc, c'est estimé que ça pourrait coûter l'économie australienne 80 milliards de dollars en 10 ans. C'est une énorme quantité d'animaux, ça serait obligé de les tuer, malheureusement, les animaux, parce qu'il faut éliminer cette maladie. Et donc, il y aurait énormément moins de stocks ici en Australie. Le prix de la viande monterait très rapidement et ça serait très, très difficile pour les fermiers de survivre financièrement. Donc, c'est vraiment un vrai danger pour cette industrie ici en Australie, et les gouvernements à tous les niveaux sont en train de se préparer. Et si on retrouve ça sur une ferme ici en Australie, cette ferme va être immédiatement isolée, mise en quarantaine, et voilà, les animaux détruits, donc pour essayer vraiment d'empêcher que ça aille encore plus loin. Alors pour le moment, ce n'est pas encore arrivé en Australie. On espère que ça va pas le faire, et tout le monde a les doigts croisés. Donc on va voir ce qui se passe dans les semaines prochaines.
Et puis, Nicolas, les cas de fraude de cartes bancaires augmentent en Australie depuis plusieurs années. Il se passe beaucoup de choses dans le pays.
Oui, c'est vrai. Et encore une fois, c'est un problème qui est lié à la pandémie, à Covid-19, parce que les cartes bancaires, les cartes de crédit sont en général des moyens très sûrs de paiement. Les escrocs ont des techniques de fraude de plus en plus sophistiquées, et en particulier lors de paiements Internet. Alors, pendant les confinements prolongés de la pandémie, les gens ont acheté de plus en plus de choses, de marchandises à l'Internet. Et maintenant, on apprend que 1 sur 9 des Australiens ont été victimes de fraude, et pour la plupart, fraude de cartes bancaires. Ça, c'est là où les gens, les criminels, obtiennent les données d'une carte de crédit et l'utilisent essentiellement pour voler de l'argent et acheter des choses avec. Et donc, selon le Bureau australien des statistiques, 11% des Australiens, donc plus de 2 millions de personnes, ont été victimes de fraude en 2020-2021. Et ça, c'est comparé à 8,5% en 2014-15. Donc, c'est en train de monter. Et parmi les 2 millions de personnes qui ont été victimes l'année dernière, 1,4 million de ces gens-là ont été victimes de ce genre de fraude, donc par carte bancaire. Et en fait, la plupart de ces gens sont âgés entre 35 et 54. Donc, c'est des gens qui travaillaient à la maison pendant les confinements. Et on peut voir maintenant que les Australiens, pendant les confinements, ont dépensé 847 milliards de dollars avec leur carte de crédit. Donc, c'était une énorme opportunité pour ces criminels-là. Et il y a en tout presque 500 millions de dollars a été volé des cartes de crédit et les cartes bancaires. Donc, on sait aussi que les banques, les autres institutions financières, etc., ont des obligations de rembourser les clients dans des cas de vol comme ça, mais seulement pourvu qu'ils n'ont pas donné leurs données à quelqu'un d'autre. Donc, ils n'ont pas été trompés pour donner leurs détails spécifiques à quelqu'un qui les a peut-être appelés et les a convaincus que c'était nécessaire pour une raison ou une autre. Dans ce cas-là, on n'est pas remboursé, malheureusement.
Voilà, merci pour cette analyse de l'économie australienne. Nicolas, à la semaine prochaine.
Oui, merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Ça aussi, on l'a évoqué dans le journal, le Royaume-Uni qui se cherche un nouveau Premier ministre. Deux candidats sont toujours en lice. Après la démission de Boris Johnson, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et l'actuel ministre des Affaires étrangères Liz Truss. Après 3 ans au 10 Downing Street, quel héritage laisse Boris Johnson derrière lui? J'ai posé la question à Nathanaël Bloch, Europa Voice numéro 101, partie 1. C'est maintenant. Europa Voice numéro 101, et comme chaque épisode, j'ai le plaisir de retrouver Nathanaël Bloch.
Bonjour Marianne.
Nathanaël, Boris Johnson n'est plus. Alors avant toute chose, avant de parler de son bilan, de son héritage, de ses potentiels successeurs, comment on en est arrivé à cette démission? Rappelez-nous les faits.
On dit au revoir au monsieur Brexit du Royaume-Uni, Boris Johnson. On va revenir sur son bilan, qui est en fait surtout focalisé justement sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais en fait, c'est véritablement un putsch interne du Parti conservateur qui a amené Boris Johnson à devoir démissionner après une longue liste de ministres qui eux-mêmes ont démissionné et qui faisaient en fait que l'exercice du pouvoir était devenu complètement impossible pour Bojo.
Qu'est-ce qu'il lui reprochait?
Il lui reprochait en fait pas mal de choses. Il lui reprochait déjà en fait de pas vraiment mettre en œuvre, enfin de pas tirer profit d'une certaine façon des promesses du Brexit, puisque en fait il y avait une idée d'abord qui était, j'allais dire nationaliste avec le Brexit, qui était que le Royaume-Uni retrouve sa souveraineté, mais surtout il y avait une promesse économique de retrouver de la croissance, de l'investissement, de l'emploi en sortant de l'Union européenne. On se rappelle aussi des phrases de Boris Johnson qui avait pas hésité à complètement mentir sur l'argent par exemple que devait donner chaque semaine le Royaume-Uni à l'Union européenne, et donc l'argent qu'il ne devrait plus donner en cas de sortie de l'Union européenne avec le Brexit. Et c'est surtout ça en fait, c'est surtout cet élément de ne pas avoir retrouvé ce chemin vers une croissance économique qu'on lui reproche en son propre parti. Et puis je dirais qu'il y a aussi une vision à plus moyen et long terme. Ce qu'on reprochait, en tout cas ce qu'on anticipe du côté des Tories, des conservateurs, c'est que si on gardait Boris Johnson en place, à la tête des conservateurs, on allait tout droit vers une catastrophe aux prochaines élections législatives. Et donc c'était aussi une manière de s'assurer, en tout cas de mettre le parti sur des meilleurs rails pour les prochaines élections, pour pouvoir garder le pouvoir.
Vous l'avez dit, Boris Johnson était vu par certains comme un menteur invétéré, puis il a eu du mal à se relever après l'affaire du Partygate, ces fêtes qui ont été organisées au 10 Downing Street, au plus strict du lockdown. Nathanaël, quel bilan tiré des 3 ans de Boris Johnson en tant que Premier ministre? Quel héritage il laisse derrière lui?
Boris Johnson, il va être vu après ces 3 ans comme le monsieur Brexit du Parti conservateur, celui véritablement qui a tout fait, qui a œuvré tout son aura pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est lui, encore une fois, Marianne, qui n'avait pas hésité à mentir, à aller jusqu'à mentir pour pouvoir mettre dans la tête des Britanniques cette idée de Brexit. Il parlait, j'y revenais il y a quelques instants, sur 350 millions qui étaient envoyés à l'Union européenne chaque semaine. Il avait aussi refusé d'admettre qu'il a consenti à des contrôles douaniers en mer d'Irlande, en signant l'accord avec la sortie avec l'Union européenne, ce qui devait être, on avait beaucoup traité de ça dans les derniers numéros d'Europa Voice, cette frontière nord-irlandaise qui était quelque chose vraiment qui était un point de négociation extrêmement important pour permettre une parfaite continuité du territoire irlandais. Donc ça aussi il avait menti sur ça. Il avait suspendu le Parlement de manière complètement incroyable, chose qu'on n'avait jamais vue au Royaume-Uni auparavant. Donc véritablement, c'est compliqué, Marianne, de dresser un bilan positif de Boris Johnson. Encore une fois, alors ce que les partisans du Brexit, ou en tout cas ce que les soutiens lui sont gré, et là pour le coup ce qui est intéressant, Marianne, c'est que c'est complètement à travers l'ensemble de l'échiquier politique, c'est que actuellement au Royaume-Uni, ni du côté des conservateurs ni du côté des travaillistes, il ne semble qu'on va remettre en cause cet accord du Brexit, c'est-à-dire que à la fois dans sa succession au sein du parti conservateur, mais dans l'opposition, personne ne semble remettre en cause la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En tout cas, personne ne semble vouloir recandidater. Et donc, en fait, en termes de bilan, pour répondre à la question, bah, c'est vraiment d'avoir tenu bon, ou en tout cas d'avoir négocié cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est véritablement l'élément central qu'on garde de Boris Johnson. Et puis après, peut-être un peu plus proche de nous, il y a deux choses du côté australien qu'on peut savoir gré à Boris Johnson. C'est d'abord d'avoir négocié un accord de libre-échange, Marianne, avec l'Australie, parce que il faut le rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice, c'est maintenant que le Royaume-Uni est en dehors du marché commun, en dehors de l'Union européenne, il va devoir négocier des accords de libre-échange avec chaque entité politique, chaque pays, puisqu'il n'y a plus cette appartenance à cette zone de libre-échange, et donc le Royaume-Uni va devoir négocier cas par cas ces accords. Donc, on voit Boris Johnson a quand même commencé ce chemin pour retrouver des partenariats en termes de commerce d'échange privilégiés avec certains pays. Donc, en ce qui nous intéresse ici en Australie, avec le gouvernement à l'époque de Scott Morrison. Et puis aussi, un élément dont on a beaucoup parlé à Europa Voice, Marianne, c'est cet accord AUKUS autour des sous-marins. Après le changement de parole, hein, si on peut s'exprimer ainsi, du gouvernement australien et la rupture du contrat avec la France et Naval Group, ben c'est cet accord de partenariat avec à la fois l'Australie et les États-Unis autour d'un programme de sous-marins et de coopération économique et scientifique.
On en vient à cette question, hein. Qui pour lui succéder ? Parce que apparemment, c'est pas si évident que ça.
Non, c'est une question qui est compliquée, puis c'est un processus aussi qui est différent, donc on n'est pas forcément familier. Ce seront ensuite les 180 000 membres du Parti conservateur qui départageront les deux candidats finalistes à peu près au mois d'août, et on a un résultat définitif qui est attendu, Marianne, pour le 5 septembre. Donc ça, c'est pour le processus en soi. Après, en termes de candidats, on est un peu, il faut le dire, Marianne, dans le flou. C'est très difficile de savoir qui va sortir du chapeau en termes de succession de Boris Johnson. Alors après, on a quelques noms quand même qui sortent. On a Rishi Sunak, qui lui est un des favoris. Lui, il reste un Brexiteur, Marianne, qui est convaincu. Et d'une certaine façon, c'est là aussi où on voit que l'héritage de Boris Johnson, il est vraiment concentré sur le Brexit. C'est que même si c'est un Brexiteur convaincu, il est considéré comme candidat de l'aile modérée du parti. Et moi, je trouve que c'est une information qui est intéressante, parce que ça veut dire que le Brexit, encore une fois, au sein du Parti conservateur, mais même dans l'opposition travailliste, le Brexit maintenant est un fait. C'est plus quelque chose sur lequel on va revenir. Donc on a Rishi Sunak, qui est l'ex-chancelier de l'échiquier, qui était aussi un de ceux qui avaient véritablement entraîné la chute de Boris Johnson en démissionnant début juillet. Donc on a lui. On a une candidate qui s'appelle Liz Truss, une des surprises de cette primaire, si on peut l'appeler ainsi, conservatrice. Très difficile pour l'instant de dire qui va sortir du chapeau. Et encore une fois, si les conservateurs sont intelligents et qui pensent à leur parti et à l'avenir de leur parti au sein du pays, ils vont avoir intérêt à très vite s'entendre, Marianne, s'ils ne veulent pas courir à la catastrophe en vue des prochaines élections législatives.
Europa Voice numéro 101, messieurs, dames, Nathanaël Bloch, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marianne.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne.
Comme s'il en pleuvait, Mera Andrade. On va parler cinéma à présent. Le film français Haute Couture est actuellement en salle en Australie. Interview avec la réalisatrice Sylvie Ohayon.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Pour célébrer la sortie du film français Haute Couture en Australie, nous sommes en ligne avec sa réalisatrice Sylvie Ohayon. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Haute Couture est votre deuxième long métrage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire, le synopsis ?
Oui, alors c'est l'histoire d'une gamine un peu désœuvrée qui vit en banlieue et qui, un jour de désœuvrement, avec une amie, va s'amuser, entre guillemets, si on peut parler d'un jeu, à aller piquer le sac d'une dame bien mise dans le métro en espérant y trouver quelques deniers. Et il se trouve qu'en fouillant dans le sac, elle découvre qu'il s'agit juste d'une couturière qui n'est pas beaucoup plus riche qu'elle. Donc, elle décide de lui rapporter le sac. Et la dame en question, incarnée par Nathalie Baye, lui dit « Écoute, tu peux continuer à piquer des sacs comme ça, mais moi, je préférais que tu piques des robes avec une aiguille. J'ai personne à qui transmettre mon métier, je vais partir à la retraite. Donc, si tu veux, je t'apprends le métier de couturière. » Et puis, sans le dire, elle dit « Toi, tu m'apportes un peu de compagnie et puis de fraîcheur humaine parce que je me fais drôlement chier dans mon pavillon au fin fond de la banlieue. » Et ainsi va s'articuler une relation un peu, j'allais dire maternelle, mère de substitution entre une gamine dont la mère est défaillante et une dame plus âgée, donc qui a eu beaucoup de mal à élever sa propre fille. Et donc, qui répare aussi à travers la transmission de ce geste, de ce métier, tout ce qu'elle n'a pas pu faire avec son propre enfant.
C'est comme si Nathalie Baye donnait une seconde chance à cette jeune femme.
Absolument. Ou une première, parce qu'elle est toute jeune, donc elle a 20 ans. Donc oui, une chance de s'en sortir par le métier.
Vous l'avez évoqué, hein, Nathalie Baye joue la couturière en chef de la Maison Dior, mise à la retraite anticipée, accro au sucre, au tabac, dépressive, seule, mais passionnée par son métier, toujours très classe, on le voit dans le film. C'était une évidence pour vous de choisir cette actrice française, Nathalie Baye ?
Oui, c'était une évidence parce qu'elle vient de la danse classique. En fait, les personnages de Jade et de Nathalie Baye, enfin d'Esther, donc Jade jouée par Lina Koudry, sont un peu un mélange de mon caractère à moi, c'est-à-dire quelque chose de très psychorigide et puis une ascendance banlieusarde, parce que j'ai grandi à La Courneuve dans une cité du 93, donc de banlieue parisienne un peu chaude. La psychorigidité de Nathalie Baye, compte tenu de son éducation au ballet de Monaco, me séduisait beaucoup. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, pour être complètement honnête, 4 Césars, une immense actrice. C'était une évidence.
Vous l'avez évoqué, votre enfance à La Courneuve et justement votre premier film, Papa Was Not a Rolling Stone, qui est sorti en 2013, raconte la vie de Stéphanie, une jeune femme de La Courneuve également, qui grandit auprès d'une mère absente, d'un beau-père violent, d'une grand-mère qui est absolument tout pour elle, le tout dans les années 1980. Dans Haute Couture, on retrouve également cette dualité banlieue-classe privilégiée, si je puis dire. Cette volonté de fuir la morosité d'une enfance isolée dans laquelle les rêves de grandeur n'ont pas vraiment leur place. Est-ce que, vous en avez un petit peu parlé, mais votre vie, votre enfance inspire vos films ?
Oui, parce que je suis un auteur avant d'être cinéaste. J'ai quand même écrit des livres, 7 livres. Et en fait, il se trouve qu'un auteur, il ne fait jamais que parler de lui, en fait. Et un artiste, si tant est que je puisse me cataloguer en tant qu'artiste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... répare son enfance à travers son œuvre et ce faisant, on répare aussi un petit peu le monde parce qu'on a tous les mêmes traumas à différents niveaux. En tout cas, on a tous les mêmes ressorts. Donc oui, je fais un peu que parler de moi, c'est très égoïste.
Et certaines critiques reprochent au film Haute Couture d'être un film un petit peu cliché, la rencontre entre deux femmes perdues qui ne viennent pas du même monde. Vous qui avez vécu cette dualité entre ces deux mondes, que leur répondez-vous à ces critiques ?
Justement, c'est qu'ils viennent pas de mon monde, en fait, et que les choses, surtout en France, sont très circonscrites. Il y a une hégémonie sociale, il y a une hérédité sociale en France qui est évidente, en fait. Les fils de boulanger deviennent boulangers, les fils d'acteurs deviennent acteurs, les fils de notaires deviennent notaires, et les fils de prolo deviennent secrétaires ou prolo, si tant est que ce soit un métier, on devient mère au foyer en banlieue. Donc, c'est vrai que les barrières sociales sont difficiles à franchir. Et qu'on est souvent cantonné dans notre milieu social d'origine. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'INSEE. Enfin, il y a un moment donné, on peut avoir des jugements comme ça sur des situations. Oui, c'est cliché, mais parce que la vie, elle est faite de clichés. En fait, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je voulais pas, parce que je me sentais pas du tout légitime. Et j'ai un problème de légitimité n'ayant pas eu de père. Bon, c'est un autre sujet. Et Sylvie Vered, mon amie réalisatrice, m'a dit "Écoute, en fait, les images, tu les portes en toi. Il faut que tu sois dans la vérité de tes images, les images que tu as vécues." Donc, tout ce que j'ai transmis dans Papa Was Not a Rolling Stone et même dans Haute Couture, alors Haute Couture, c'est plus romancé parce qu'on passe par le prisme d'une maison de haute couture, etc. Mais les relations humaines, le fait d'être cantonné dans des réflexes sociaux, etc., c'est juste inspiré du réel, en fait. Et il se trouve que j'ai beaucoup voyagé de par le monde, mais surtout de par les milieux sociaux. J'habite face à la Tour Eiffel et j'ai grandi face à une tour de 26 étages à la Courneuve. Donc, la bascule sociale, je l'ai faite. Les mondes, je les ai croisés, je les ai rencontrés. J'ai essayé de les faire se rencontrer, c'est pas évident. Et c'est force est de constater que la mobilité est très compliquée.
Et justement, cette mobilité, puisque vous l'avez réalisée, c'est quoi? C'est une revanche?
Au départ, il faut un peu de rage pour mettre du gaz dans le moteur. Mais c'est pas que ça, non, j'ai beaucoup. Bon, là, je vais avoir 52 ans, donc j'ai eu le temps de réfléchir à la question. En fait, je pense que le vrai vecteur de mouvement, c'est le besoin de liberté. C'est pouvoir se dire, je peux aller partout, je peux faire ce que je veux. C'est bête, mais par exemple, moi, jusqu'à 20 ans, j'avais pas mis les pieds dans un musée. Quand j'ai découvert les musées, j'ai vu ce dont la vie m'avait privé. Et je me suis dit, mais plus jamais. Donc, je veux aller dans tous les pays, je veux aller dans tous les milieux sociaux, je veux pouvoir acheter les chaussures que je veux, voir les tableaux que je veux. Et comme on est dans des sociétés de consommation, pour ce faire, à certains endroits, il faut du fric. Pour voyager, il faut du fric. Pour avoir des belles chaussures, il faut du fric. Ou pour aller voir l'opéra de Sydney, il faut du fric. Donc, la meilleure façon, c'était de gagner du fric. Et puis, comme en plus, ça appuyait sur un complexe social qui était, j'étais enfant de sous-smicarde, j'avais pas de père, etc. Je me sentais vraiment enfermée. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on se dit, bon, alors attends, soit tu fais de la magouille, soit tu vends du shit. Ouais, ça, c'est un peu dangereux. Soit tu travailles à l'école, t'es pas trop mauvaise à l'école. Peut-être qu'en ayant des diplômes, sur un malentendu, tu peux te faire un avenir social. C'est la voie que j'ai empruntée.
Pour revenir spécifiquement à ce film Haute Couture, vous le dédiez à Jade et à toutes les femmes de bonne volonté. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Alors, Jade, c'est ma fille. J'ai une fille qui s'est détournée de moi à l'adolescence pour plein de raisons. Et je lui ai dit, écoute, puisque tu ne veux pas de l'éducation que ta mère t'offre, peut-être trouve-toi une femme, ta belle-mère, je ne sais pas, parce que je suis divorcée de son père, pour te donner une éducation qui te conviendrait, quoi. Mais appuie-toi sur une femme parce que tu es trop jeune pour t'en sortir toute seule. Et puis, parallèlement à ça, j'ai élevé une petite qui s'appelle Elsa, qui est la fille de mon mari, dont j'ai hérité dans la panière de mon second mariage. Et force est de constater qu'elle a beaucoup pris de mon caractère. Elle aime la variété française, elle a eu 19 au bac en français, elle est très bonne à l'école, elle est psychorigide. Voilà, elle a beaucoup, beaucoup de mes traits de caractère. Et donc, ça m'a vraiment interrogée. Et puis, les femmes de bonne volonté, c'est parce que je n'aime pas du tout la phrase qui est au fronton du Panthéon. Il y a écrit « Aux hommes de bonne volonté, la patrie reconnaissante ». J'ai dit « Attendez, excusez-moi, aux hommes de bonne volonté, on oublie juste la moitié de l'humanité ». J'ai beaucoup de respect pour les femmes, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes, pas toutes, mais il se trouve que les gens que j'admire le plus, ce sont souvent des femmes. Et je trouve aussi que les personnes qui ont fait bouger la société, ce sont souvent les femmes. Et en tout cas, voilà, je voulais aussi qu'on dise « Attendez, il y a aussi les femmes de bonne volonté ».
Est-ce que vos prochains films, vos prochains projets vont aussi traiter de cette question des banlieues? Est-ce que pour vous, c'est une signature?
Non, pas du tout. En revanche, mon sujet, c'est la bascule d'un monde à l'autre. Donc là, je suis en train d'écrire une comédie musicale que je vais certainement faire avec un chanteur très connu qui va composer la musique. Mec génial, je peux rien dire pour l'instant, c'est pas signé. Mais en tout cas, c'est comment un enfant adopté va essayer de retrouver les origines de sa mère. Un enfant adopté qui a rempli toutes les cases pour faire plaisir à ses parents adoptifs va se retrouver en fait à s'avouer qu'en fait il n'est pas hétéro mais il est gay. Donc trouver sa vérité en basculant de monde. Voilà. Donc ça c'est la comédie musicale. Et je suis sur un autre sujet avec Janice Bouziani et Guillaume de Tonquédec, un film qui s'appelle De fesses à confesse, qui raconte la rencontre entre un acteur porno et un prêtre, et de montrer que la pornographie n'est pas forcément là où on croit qu'elle est, en fait. Parce qu'il y a des choses dans la religion, moi, qui me heurtent. Alors, je ne parle pas juste des trucs extrêmes comme la pédophilie, etc., mais les faux semblants des religions, quelles qu'elles soient, en tout cas des trois religions monothéistes que je suis amenée à fréquenter, me heurtent à certains endroits de la vérité. Donc, toujours une espèce de recherche un peu de violer un peu, de faire tomber les faux-semblants pour faire apparaître la vérité, parce que je pense que les faits, c'est la vérité.
Donc, il y a toujours une dualité.
Oui, absolument. En tout cas, il y a toujours une bascule entre ce qui fut et ce qui est, et un changement de paradigme.
Sylvie Oyon, je le rappelle, vous êtes la réalisatrice du film français Haute Couture, qui est actuellement en salle en Australie. Merci beaucoup pour cette interview.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Connaissez-vous SBS Easy French? C'est notre plateforme pour apprendre le français. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notre site internet et ainsi écouter un journal adapté chaque semaine. Et chaque semaine également, eh bien, il y a le mot de la semaine. Un mot de l'actualité, un mot qu'on décrypte, qu'on explique, qu'on analyse. C'est une chronique signée Thomas Mercier que je vous propose de découvrir maintenant.
Bonjour et bienvenue dans le mot de la semaine de SBS Easy French. Alors, chaque semaine, en début de semaine, nous allons décrypter l'actualité avec un mot marquant de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous nous avez choisi le mot
Avenue Christophe. On la surnomme avec beaucoup de modestie la plus belle avenue du monde. On l'admire notamment pour son architecture et ses commerces de luxe. Longue près de 2 km, l'avenue des Champs-Élysées à Paris est sans aucun doute le lieu le plus populaire en ce mois de juillet. Elle accueille chaque année le traditionnel défilé militaire lors des célébrations du 14 juillet et marque l'arrivée du Tour de France cycliste, l'étape 21 qui aura lieu ce dimanche. Étymologiquement, c'est bien d'arrivée dont il est question puisque le terme avenue est tout simplement le participe passé du verbe avenir, aujourd'hui transformé en advenir, mais qui, en vieux français, se voulait le synonyme du verbe arriver. L'avenue désigne donc le chemin par lequel on arrive quelque part. On l'utilise d'ailleurs également pour indiquer le chemin d'accès à un château ou un monastère. À Paris, les Champs-Élysées suivent l'axe historique de la ville et mènent à la place de la Concorde. Si l'avenue est une voie plutôt large et rectiligne, souvent bordée d'arbres, qui conduit à un point de la ville ou un monument, on se demande souvent ce qui la distingue du boulevard. La réponse se trouve ici aussi dans l'étymologie du mot. Du néerlandais bolwerk, rempart, bastion, le boulevard porte bien son nom car il désignait à l'origine les remparts fortifiés qui entouraient une ville au Moyen-Âge, puis sont devenus plus tard des lieux de promenade et de divertissement. Pour revenir au Tour de France, pour tout coureur cycliste, gagner cette dernière étape sur les Champs-Élysées, c'est une consécration. En effet, les Champs n'offrent pas une victoire comme les autres, c'est une victoire au cœur de Paris face à des millions de spectateurs du monde entier. On se donne rendez-vous ce dimanche pour l'arrivée du Tour de France sur SBS. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau mot en lien avec l'actualité.
Il est 13h57, l'heure du rappel des titres. L'Australie, sous la menace d'une crise sanitaire avec la propagation de la maladie de la fièvre aphteuse chez nos voisins indonésiens, les appels à fermer les frontières se multiplient. La Russie ne se contentera pas du Donbass et compte pousser son offensive contre d'autres territoires en Ukraine, menace proférée par Moscou. Le Premier ministre italien, proche de la sortie, Mario Draghi devrait déposer une nouvelle fois sa démission après la défection de 3 partis au sein de sa coalition. Lui aussi s'apprête à quitter son poste de Premier ministre. Boris Johnson passera la main soit à Rishi Sunak, soit à Liz Truss. Les deux conservateurs ont été désignés comme finalistes et seront ensuite départagés par les adhérents du parti. Et enfin, du sport et la victoire de Tadej Pogacar dans les Pyrénées lors de la 17e étape du Tour de France. Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. Messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de passer cette heure avec vous. Je m'appelle Marianne Murat. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est samedi, même fréquence, même heure. Une émission présentée par Thomas Mercier. Et ensuite, dimanche, une émission présentée par Jean-Noël Ducasse. Si vous souhaitez réécouter cette émission en intégralité ou alors seulement le journal, les sports ou bien nos chroniques, vous pouvez vous connecter sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook... SBS French, Spotify, Apple Music ou n'importe quelle plateforme de podcast. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt, au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook. facebook.com/sbsfrench.